Aborder ce soir en histoire d'Église un nouveau chapitre, l'évangélisation de masse aux États-Unis, ou à partir des États-Unis plus exactement. L'évangélisation de masse est le résultat de l'évolution des États-Unis d'une part au XXe siècle et aussi de la société en général dans le monde. Le progrès des communications, des échanges, qui rend possible le rassemblement d'auditoires considérables et qui va voir donc naître, après les grandes campagnes d'évangélisation itinérantes qui ont marqué le 19e siècle dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, et plus particulièrement les grandes campagnes du Moody, puisque finalement Moody meurt dans les toutes dernières années du 19e siècle. Et sur la lancée de Moody, un certain nombre d'évangélistes vont se lever pour entreprendre donc des campagnes d'évangélisation de plus en plus importantes, rassemblant des auditoires de plus en plus importants, jusqu'au moment où vont avoir lieu donc ces grandes évangélisations de masse, comme on les appelle. Le premier de ces grands évangélistes de masse se nomme Billy Sunday. C'est un ancien champion sportif qui était avant sa conversion véritablement un grand pécheur et qui rencontre le Seigneur. Il était déjà connu avant sa conversion comme sportif et par conséquent il avait déjà une certaine notoriété. Sa conversion fait grand bruit et ça lui permet donc de rassembler des auditoires extrêmement importants. Bon, Billy Sunday est véritablement un prédicateur populaire. Sa théologie est très simple. C'est vraiment un évangéliste qui n'aurait rien à envier aux évangélistes pentecôtistes qui prônent la simplicité de l'évangile. C'était vraiment un évangile simple, voire simpliste, et même parfois trivial. N'hésitez pas à employer des espèce de bouffonnerie dans ses prédications, mais ça portait. Et il avait de très très nombreuses conversions. Après Billy Sunday, il y a un autre évangéliste qui va emboucher un peu, si j'ose dire, la même trompette, c'est un certain Yoré, qui lui est peut-être quelqu'un qui aura moins marqué que ne l'aura été Billy Sunday, qui était quelqu'un qui a évangélisé au début du siècle. Et puis un peu plus tard, donc dans la deuxième moitié du siècle, il faudra citer Oswald Smith, qui lui est un Canadien et qui a établi son quartier général à Toronto. Oswald Smith est non seulement un évangéliste de masse, qui va donc aussi lui rassembler des foules importantes, mais aussi qui va avoir une vision mondiale. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être nouveau, dans ce sens que ces évangélistes de masse ne vont pas se contenter uniquement à leur pays ou même à leur continent, mais vont avoir aussi le souci d'organiser des grands rallyes, c'est le mot qu'on emploie, des rallyes, des missions, des conventions, des croisades. Il y a tout un vocabulaire très particulier qui naît autour de ces grands rassemblements, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et Oswald Smith va organiser des réseaux d'évangélisation, ça veut dire des collaborateurs, parce qu'au bout d'un temps, lui-même ne peut plus fournir, n'est-ce pas, il ne peut plus être sur tous les fronts à la fois. Et il va de temps en temps dans tel ou tel pays pour un grand rallye. Et puis ensuite, il laisse la suite du travail à des collaborateurs locaux, des nationaux, comme ils les appellent dans le langage américain. Il se crée donc une grande entreprise d'évangélisation. C'est finalement ça. C'est managé pratiquement à l'américaine. Un petit peu, faut bien le dire quand même, c'est l'époque du grand management des entreprises commerciales de Henry Ford. C'est l'époque d'Henry Ford qui organise, vous savez, les premiers les premières fabrications de voitures à la chaîne, etc. Bon, finalement, c'est un peu le décalque, faut bien le dire, sur le plan spirituel de ce qui existe dans la société américaine, sur le plan économique. Il y a un véritable management qui se fait d'une entreprise d'évangélisation, finalement. Bon, alors je dis pas ça de manière péjorative du tout, je constate le fait, simplement. Bon. Et le XXe siècle va voir donc se lever toute une pléthore d'évangélistes de masse et d'organisations du même type, qui sont pratiquement toutes américaines ou nord-américaines, si on prend par exemple des Canadiens comme Oswald Smith, mais finalement qui lui aussi travaille aux États-Unis. C'est pas la frontière entre le Canada et les États-Unis est tout à fait théorique, finalement. Bien. Alors, il y aura deux tendances dans cette évangélisation de masse. D'une part, une tendance pentecôtisante. Et là, quand on a parlé du pentecôtisme américain, on a parlé de certain nombre de grands noms que nous retrouvons ici donc comme évangélistes de masse, qui vont insister notamment justement sur le ministère de guérison. Ce sera le cas, par exemple, dès le début. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, c'est surtout après la Deuxième Guerre mondiale que se déploie cette évangélisation de masse. Mais il faut citer Oral Roberts, T.L. Osborne, des gens comme d'autres noms qui vont aussi avoir un rayonnement assez important. Et qui petit à petit vont quand même dériver, il faut bien le dire, vers les moyens de mass-média. Et alors, il va y avoir, alors là, création aux États-Unis, à partir des années 70 en particulier, de ce que l'on a pu appeler l'église électronique, notamment par la télévision, évidemment. D'abord, des grands évangélistes de masse qui ont le souci d'atteindre les perdus par tous les moyens, vont comprendre assez vite le parti qu'ils peuvent tirer justement de ces nouveaux moyens de communication qui se développent dans la deuxième partie du XXe siècle. C'est d'abord le film. Par exemple, un homme comme T.L. Osborne emploiera énormément le film, les cassettes, d'abord les bandes enregistrées sur magnétophone avant la création des cassettes. Et il enverra par exemple des évangélistes, ou il formera des évangélistes par exemple en Afrique, qui n'ont pas du tout de formation théologique, mais simplement qui ont à leur disposition un magnétophone, qui leur fournit, lui, un appareil de projection et tout un stock de films et d'enregistrements, de prédications qu'ils promènent un peu partout dans la brousse, dans les villes et les villages africains. Et là, ils rassemblent des auditoires pour leur projeter, justement, les films. Bon. Alors ça, c'est d'abord ça. Puis ensuite, évidemment, quand l'essor de la télévision atteint, donc avec les satellites en particulier, dans les années 70, une nouvelle dimension, eh bien, les évangélistes de masse vont se ruer aussi sur ce moyen-là. Et donc, il va y avoir, d'une part, achat de temps d'antenne sur des chaînes de télévision diverses, qui sont des télévisions commerciales, ou même, au bout d'un temps, un certain nombre d'organisations d'évangélisation vont avoir leur propre réseau de télévision, leurs propres satellites, certaines d'entre elles, ce qui montre d'ailleurs le degré de richesse auquel elles sont parvenues quand on sait le prix que coûte un satellite, ou alors une part de satellite. On peut acheter la moitié d'un satellite avec d'autres organisations, etc. Bon, il y a des arrangements divers qui étaient possibles. Et alors, donc, il y a des organisations d'évangélisation qui n'ont strictement aucune autre activité que l'activité d'employer les médias, et notamment, justement, la télévision. D'où le nom d'église électronique qu'on leur a donné. Alors ça, deux gros inconvénients. D'une part, c'est que ça coûte très cher. Et par conséquent, une bonne partie des émissions de télévision consiste à demander de l'argent aux auditeurs. Et au bout d'un instant, on se rend compte que la majorité de ceux qui regardent ces programmes de télévision sont souvent des chrétiens. Et des chrétiens qui désapprennent alors l'assistance au culte pour passer le culte devant leur télévision. Donc on peut véritablement parler d'église électronique. Des grandes églises qui, elles, rassemblent des centaines, voire des milliers de personnes, par exemple en Californie ou ailleurs, ont aussi ensuite leur propre réseau de télévision, non pas pour l'évangélisation, mais justement pour atteindre des gens qui soient, soi-disant, sont isolés. Et alors, donc, se crée toute cet énorme réseau qui va représenter une part de marché très importante de tout ce qui est justement audiovisuel et qui est entre les mains justement de ce que l'on va appeler à partir des années 70 les télévangélistes. Et alors, c'est dans ces années-là aussi que va naître alors un certain nombre de scandales moraux. Parmi les grands télévangélistes de cette époque-là, il y a des gens comme Pat Robertson, qui se lancera dans la politique et qui aura pour ambition de devenir président des États-Unis. Bien sûr, ça n'ira pas beaucoup plus loin, mais il avait réussi à militer dans le Parti républicain et à être un des candidats possibles à une des élections, je ne sais plus à quelle époque c'était, peu importe. Mais alors, les grands scandales moraux vont venir notamment du couple Baker, qui est un couple de télévangélistes américains de ces années-là, qui avait d'ailleurs, outre les appels déplacés d'argent, parce que ça aussi, c'est finalement ce qui va... Les coûts augmentent tellement, si vous voulez, que finalement, les télévangélistes sont de moins en moins regardants sur la manière de récolter l'argent. Et alors, des trucs publicitaires sont employés pour ramasser des fonds, finalement, et pour impressionner les gens. Et Oral Roberts fera scandale devant toute l'Amérique quand, voulant rassembler je ne sais plus quelle somme pour construire... le Seigneur lui avait soi-disant montré que s'il ne rassemblait pas telle somme pour tel moment, le Seigneur allait le reprendre, quoi. Le Seigneur allait le faire mourir. Alors, pour éviter que Oral Roberts ne meure, eh bien, il fallait que chacun délie les cordons de sa bourse, quoi. Et alors, il avait ensuite terminé son émission en éclatant en sanglots devant les caméras de télévision. Ça avait impressionné le bon peuple, mais pas seulement dans le bon sens. Un certain nombre de journalistes et de gens qui réfléchissaient un peu avaient trouvé que là, c'était allé un peu trop loin, quoi. Bon, ensuite, les Baker aussi employés pour le système de télévision des spots publicitaires, faut vivre. Alors, ils vendaient des temps d'antenne comme une télévision normale à toutes sortes de maisons, y compris quelquefois des choses qui n'étaient pas très, très, très extraordinaires. On frisait la pornographie dans ces émissions-là avec des publicités de maisons de lingerie féminine ou des choses comme ça, que Madame Baker elle-même présentait d'ailleurs. Bon, et puis finalement, évidemment, Baker lui-même a eu une liaison extramaritale qui est devenue de notoriété publique et qui a fait alors scandale, non seulement aux États-Unis, mais au-delà, dans la mesure où justement les émissions du couple Baker avaient atteint les États-Unis. Bon, d'autres évangélistes, dans le même temps, vont connaître aussi le même genre de problème. Un autre télévangéliste fort connu, lui, sans avoir, il était d'ailleurs, était resté Assemblée de Dieu, va avoir aussi, non pas alors une liaison, mais enfin, sur le plan moral, un certain nombre d'attitudes douteuses, etc. De telle sorte que, là aussi, il y aura scandale. Vous savez, dans ces choses-là, on en rajoute toujours un peu, bien qu'il y en avait déjà suffisamment pour que ce ne soit pas nécessaire. Bref, il va y avoir une véritable campagne à la fin des années 70 aux États-Unis contre, justement, cette fameuse église électronique. Si bien qu'aujourd'hui, la plupart des télévangélistes ont été obligés de mettre pas mal d'eau dans leur vin. Bon. Alors évidemment, ça c'est quelque chose qui a été très négatif, on en a même ressenti les effets nous ici, ce qui n'a pas empêché le Vatican d'ailleurs de comprendre le parti qu'on pouvait tirer de cette affaire-là, et notamment dans le cadre du renouveau charismatique, on a aujourd'hui un certain nombre de gens, notamment en Amérique du Sud, qui, parmi les prêtres catholiques aussi, se sont lancés dans, finalement, ce qu'il convient d'appeler l'Église électronique. Le Vatican a les moyens d'acheter des satellites, ce qu'il a fait, de telle sorte que, bon, dans le monde entier, maintenant, il y a des émissions de ce type-là qui passent dans le cadre du renouveau par l'intermédiaire du Vatican. Maintenant, évidemment, ce qui était scandale quand c'était pas catholique devient tout à fait légitime quand c'est catholique. Ça, c'est un des paradoxes de notre société. Bon. Parmi les évangélistes de masse, le plus connu, le plus célèbre, le plus sérieux aussi, disons-le, et Billy Graham. Billy Graham, si on veut employer la prononciation américaine. Billy Graham est né en 1919 en Caroline du Nord et dans une maison de campagne. Son grand-père était d'ailleurs un buveur invétéré d'une famille presbytérienne originaire d'Écosse, et ce qui fait qu'il a été élevé dans une morale stricte. En 1929 est arrivée aux États-Unis la grande crise mondiale que l'on connaît, et la famille Graham a perdu dans cette affaire toutes ses économies. Billy Graham a donc dû aller travailler dans la ferme familiale, et à ces moments perdus, il jouait au baseball. C'était un passionné de baseball. Il entendait se consacrer entièrement à ce sport et en faire sa carrière s'il pouvait devenir professionnel. Il était grand, costaud, bien bâti, et il avait donc un brillant avenir dans ce domaine-là. À l'âge de 5 ans, dans la région où il habitait, le fameux Billy Sunday, justement, était venu prêcher l'évangile. Et il a eu l'occasion d'entendre Billy Sunday, bien entendu. À 5 ans, ça n'avait pas eu un gros impact sur lui, qu'on peut l'imaginer. Mais enfin, il est tout à fait intéressant de noter qu'il y avait une espèce de filiation entre les deux hommes. En 1934, un évangéliste aussi, un peu de masse, enfin intermédiaire, c'était pas encore vraiment un évangéliste de masse, mais enfin c'était un évangéliste, s'appelait Mordechai Fowerham, est arrivé donc à Charlottesville, où habitait la famille Graham, et il a commencé un certain nombre de réunions d'évangélisation de 11 semaines. 11 semaines d'affilée. Remarquez, souvent on a constaté que pour qu'une campagne d'évangélisation porte du fruit, il faut qu'elle dure plusieurs semaines, et ça, Billy Graham en tirera les leçons justement dans ce qu'il aura à faire beaucoup par la suite. La population de Charlottesville à cette époque-là était très religieuse, et le taux d'assistance au culte dominical était en général très élevé. Et le jeune Billy Graham fréquentait assidûment les cultes du dimanche matin, bien entendu sans que ça lui parle énormément. Et il avait participé même à des réunions de jeunesse. Il était même devenu président du groupe de jeunes de l'église presbytérienne qu'il fréquentait. C'est à peu près dans ces années-là aussi que la famille Graham s'était orientée vers le baptisme. Son père avait eu un grave accident et il en avait réchappé quasiment miraculeusement. Et il avait donc, des chrétiens baptistes avaient prié pour lui après son accident, de telle sorte que par reconnaissance, il avait autorisé ces derniers à venir donc prier sur ces terres. Dans les champs, finalement, c'était l'été, et ces gens-là venaient faire des espèces de réunions de prière en plein air, qui impressionnaient le jeune garçon. Et puis, dans le même temps aussi, sa mère avait commencé à fréquenter des réunions baptistes. Bon, mais jusque-là, rien ne s'était produit de particulier. Et c'est quand ce fameux Mordechai Fowerham est arrivé, donc, en 1934, dans cette ville de Charlottesville, que les choses se sont précisées pour ce qui concernait le jeune Billy. Dans ses prédications, l'évangéliste dénonçait les pratiques immorales qui étaient celles déjà des jeunes de cette époque-là, notamment les jeunes qui faisaient des études. Et les élèves du lycée dans lequel étudiait Billy ont fort mal pris la chose. Et ils ont décidé un soir d'aller tous ensemble pour chahuter l'évangéliste pendant ses réunions. Billy, lui, qui avait une position beaucoup plus mitigée que ses camarades sur ses réunions, puisque ses parents y étaient favorables, a suivi le mouvement, mais de loin. Et il n'a pas véritablement participé au chahut, et il s'est mis dans un coin pour écouter un petit peu les uns et les autres. Et ce soir-là, justement, l'évangéliste avait une prédication, c'est très intéressant de le noter, très forte sur l'enfer. C'est une prédication qui ne serait plus très populaire aujourd'hui, mais qui a fait en sorte que les jeunes lycéens qui étaient venus pour chahuter la réunion ont vu un peu leurs ardeurs se fondre comme beurre au soleil sous les flammes de l'enfer qui leur étaient dépeints. Et parmi un de ceux qui a été les plus impressionnés n'était autre que le jeune Billy, qui lui a été profondément remis en question. Et lorsqu'il venait d'avoir 16 ans à cette époque-là, et l'évangéliste a terminé en disant, bien voilà, maintenant, ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur, eh bien qu'ils se lèvent et qu'ils viennent sur le devant de l'estrade. Et alors il a entonné le fameux cantique qui est devenu pratiquement le leitmotiv, l'hymne de toutes les campagnes du Billy Graham, « Just as I am »,« Tel que je suis sans rien à moi », c'est un cantique qui a été traduit en français. Et alors, la dernière strophe de ce cantique, quand l'assistance a repris « Just as I am »,« Tel que je suis, je viens à toi », eh bien, le jeune Billy s'est levé et il s'est avancé, malgré les colibés, malgré les rires de ses camarades, donc sur le devant de l'estrade. Il s'est véritablement converti et ce jour-là, donc, sa vie a véritablement changé. Lui qui était passionné de baseball, qui ne s'intéressait pas du tout aux études, a commencé à s'appliquer à ses études, ce qu'il a donc terminé avec brio, de telle sorte qu'il a réussi à avoir un certain bagage. Bon. Bien entendu, à cette époque-là, il n'envisageait pas encore de servir le Seigneur véritablement. Et ce qui était l'équivalent du bac obtenu, bon, il a décidé d'interrompre ses études. Il n'était pas question pour lui de faire des études secondaires. Et il est entré dans une maison qui fabriquait des brosses comme représentant de brosses. Et il s'est mis donc à vendre des brosses un peu partout, en porte à porte. Ce en quoi, d'ailleurs, il a très bien réussi. Il est devenu un des meilleurs vendeurs de la maison en question. En 1936... Donc, 2 ans après, il a hésité et puis il a décidé finalement d'abandonner ce commerce de brosses qu'il trouvait finalement assez... Et il a décidé d'entreprendre quand même des études secondaires. Il s'est inscrit à l'université qui tenait tout du camp militaire, dit-il, et il y avait un grand écriteau à l'entrée de l'université qui disait ceci, « Aucune protestation ne sera acceptée de la part des étudiants ». Donc, au moins, c'était clair. On était loin de mai 68. Bon, il a été rapidement dégoûté. Et il a donc quitté l'université. Et c'est là qu'il a senti l'appel du Seigneur à le servir. Et il a fait part à ses parents de son désir d'entrer dans une école biblique, dans un institut biblique. Et il est donc entré dans une de ces écoles bibliques où il a été marqué profondément par un des prédicateurs canadiens, des membres canadiens de cet institut biblique, qui répétait constamment la fameuse formule qu'il adoptera lui-même, « The Bible says », « La Bible dit ». L'autorité de la Bible va être pour lui profondément soulignée par ce prédicateur. Et c'est là, donc, dans le cadre de cet institut biblique, qu'il a été amené à commencer à prêcher en plein air. Ça, c'était une coutume courante dans tous les instituts bibliques anglo-saxons de cette époque. Il y avait toujours, dans chaque institut biblique, une après-midi, prédication en plein air, où les jeunes étudiants allaient au coin des rues et là, haranguer la foule, etc. Donc, c'est là que le jeune Billy a fait ses premières armes, avec aussi un certain succès. Mais c'est là qu'il s'est rendu compte que peut-être que, justement, son ministère pourrait être davantage orienté vers l'évangélisation. L'année suivante, il a prêché pour la première fois dans une église baptiste. Il y avait une petite cinquantaine de personnes au culte. Et là, donc, il était tellement intimidé de prêcher dans une église qu'il a prêché 8 minutes en tout et pour tout. C'était assez décourageant. Et bon, il s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus à l'aise dans la rue que dans une église. Et bon, comme il était quand même un peu humilié par cette piètre performance, il s'est dit qu'il fallait quand même qu'il essaye de travailler un peu ça. Et alors il est parti, à tous ses moments libres, il partait seul dans la forêt, et là il faisait des exercices de prédication. Il haranguait les arbres, il haranguait les animaux, les pierres, etc. Et puis, bon, il s'entraînait en quelque sorte à prêcher. C'est dans cet institut biblique qu'il a trouvé, dans une église voisine, plus exactement, il a rencontré une jeune fille dont il est tombé amoureux. Et il envisageait de se marier avec elle, et puis finalement, cette jeune fille, quand elle s'est rendue compte de ce qu'était l'appel de Dieu, de ce qu'était le service de Dieu, a préféré, quand elle a vu le prix à payer, rompre ses fiançailles, et donc se séparer ainsi de lui. Billy Graham, a compris que c'était pas le plan de Dieu pour sa vie, évidemment. Et il a donc quitté l'institut biblique et il a commencé des campagnes d'évangélisation. Il s'est rendu compte qu'il était appelé à ce type de ministère. Et très vite, il a commencé à rassembler des auditoires importants. C'était loin encore des auditoires qu'il devait avoir par la suite, mais enfin, il a commencé avec quelques dizaines de personnes. Bientôt, il s'est trouvé avec 100 personnes, 200 personnes. Et puis, au bout d'un temps, il rassemblait des auditoires qui allaient jusqu'à à peu près un millier de personnes. Et c'est là qu'il a compris qu'il devait se consacrer à ce qui n'était pas encore pour lui l'évangélisation de masse. Bon, il a donc décidé aussi d'opter à fond pour l'Église baptiste, bien qu'il ait été d'origine presbytérienne, c'est-à-dire réformé. Cette même année, 1938, il s'est fait donc baptiser par immersion. 1939, il s'est fait baptiser par immersion et il a été consacré pasteur de l'Église baptiste de Kapelldar. Et c'est en ce même été qu'il a organisé donc une première convention. Pour la petite histoire, disons que c'est cette même année qu'il a été cambriolé par un malfrat, qu'il a mis en fuite en le menaçant d'un fusil de chasse. Ce qui montre qu'il avait des idées très précises en matière d'autodéfense. Petite parenthèse là, pour montrer un petit peu cette question de l'autodéfense. Parmi les jeunes Africains qui sont les Africains qui sont à Carré en formation, il y en a un qui est absolument pour la non-violence absolue. Et Erwan racontait comment il discutait avec lui. Il dit, mais si, on vient te cambrioler chez toi. Ben oui, ça m'est arrivé. Il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris un fouet, j'ai tapé sur le gars. Il dit, mais c'est pas de la non-violence. Ah si, parce que c'était pour lui faire peur. Ben oui, peut-être que c'était pour lui faire peur, mais enfin, tu l'as peut-être pas fait, c'est peut-être pas très agréable. Enfin bon, vous voyez bon, un petit peu l'incongruité, la contradiction de la situation. Bon. Donc là, il s'est retrouvé dans cette petite église où soudain, il a commencé à avoir un grand succès dans l'évangélisation, beaucoup plus que en tant que pasteur de l'église finalement. C'est donc en décembre 1941 que les États-Unis sont entrés en guerre contre le Japon et par conséquent aussi contre l'Allemagne. Billy Graham s'est posé la question de savoir s'il allait s'engager dans l'armée, etc. Et finalement, ses paroissiens lui ont conseillé de reprendre des études pour justement se consacrer à un ministère autre. Et ils avaient compris que le jeune homme avait une envergure assez exceptionnelle. Et un de ses anciens lui a dit, l'ancien de l'église lui a dit, qui sait si peut-être un jour le nom de Billy Graham ne sera pas célèbre dans le monde entier. Il avait discerné donc l'étoffe de ce jeune homme. Donc Billy Graham, au lieu d'aller dans l'armée, est allé dans une nouvelle école biblique. Et c'est là qu'il a rencontré donc Ruth Bill, qui était né en Asie, en Chine très exactement, où son père était missionnaire et qui était aussi étudiante donc dans ce même institut biblique. Pour la petite histoire et vous montrer qu'il y avait quelquefois des petites choses un peu curieuses dans la manière d'éduquer les gens aux États-Unis, elle avait gagné cette jeune fille, elle avait gagné le concours de la Miss du collège à la fin de l'année. C'était la pratique dans les instituts bibliques américains de désigner à la fin de l'année la Miss du collège. Alors bien entendu, il faudrait peut-être allumer là-bas. Tous les garçons étaient amoureux d'elle. Et finalement, évidemment, c'est Billy qui a obtenu la main de la Miss, si on peut dire, n'est-ce pas? Ainsi donc, le 13 août 1943, Billy et Ruth se sont mariés. Et Billy est devenu pasteur d'une nouvelle église baptiste. C'est là qu'il a rencontré un chanteur de jazz de blues, n'est-ce pas, très célèbre aux États-Unis, qui s'appelait George Beverly Shea, qui passait souvent à la radio et qui était déjà très, très connu. Et George Beverly Shea s'est converti au contact de Billy Graham. Dans cette petite église, il a fait œuvre d'évangéliste essentiellement, si bien que le nombre des membres de cette église a cru considérablement. Et en plus de cela, vu son succès en évangélisation, les églises voisines ont commencé à l'inviter pour des campagnes d'évangélisation. Et quand il a compris que donc il avait un certain succès dans ce domaine-là, Billy Graham a pris des résolutions qu'il a gardées pour tout le reste de son ministère. Il n'acceptait pas, il n'acceptait en échange de ses déplacements que le remboursement de ses frais. Parce qu'il s'est rendu compte que très vite, il pourrait en quelque sorte rouler sur l'or si il acceptait en quelque sorte tous les dons qu'on voulait lui faire. Les gens étaient en général très contents de ces campagnes d'évangélisation, alors il lui proposait des dons importants. Et c'est donc fort de ces succès qu'en avril 1944, une organisation d'évangélisation de la jeunesse qui s'appelait Jeunesse pour Christ lui a proposé de l'engager. Il a hésité, et notamment son église était tout à fait contre la perspective de son départ, elle voulait absolument le garder. Bon, il avait été aussi amené à faire un travail d'aumônier militaire, on était encore en guerre à cette époque-là, c'était 1943, et il a hésité, il est resté en poste jusqu'en 1945. À la fin de la guerre, il a démissionné de son église et il a rejoint donc Jeunesse pour Christ. Et en janvier 1945, il s'est installé à Chicago. C'est cette année-là qu'est née sa première fille, Virginie, qu'on appelait Gigi. Et il a commencé, à partir de ce moment-là, à voyager pour le compte, justement, de Jeunesse pour Christ et organiser dans le pays tout entier des rallyes de jeunes. Il rayonnait à partir de Chicago. Et puis de là, déjà a commencé le ministère quasiment mondial, parce que Jeunesse pour Christ l'a envoyé dans des pays en Europe, notamment en Irlande, c'était juste après la fin de la guerre, et là donc, en 1947, il a voyagé donc en Norvège, en Hollande, en Scandinavie, en Belgique, en France aussi, et là donc, une de ses sœurs a épousé un homme qui avait une culture musicale importante, qui s'appelait Cliff Barrow, qui a dirigé sa chorale et qui l'accompagnait donc dans ses déplacements. C'est aussi l'époque où George Beverly Shea a compris qu'il devait quitter à fond le show business et a décidé de rejoindre Billy Graham, Jeunesse pour Christ, et est devenu abandonner le blues pour chanter le Negro Spiritual. Plus tard, George Beverly Shea deviendra un de ses principaux collaborateurs, un petit peu ce que Sankey avait été pour Moody, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il chantait pour préparer donc les chœurs à recevoir le message de la parole de Dieu. En 1948, il a été sollicité par une université pour venir enseigner des jeunes en ce qui concernait la manière d'évangéliser. Et il est resté donc dans cette université jusqu'en juin 1950, lorsque c'était l'époque où il a compris que là, il était en quelque sorte en train de sortir de son ministère. Il n'était pas fait pour enseigner, mais il était fait pour évangéliser, et qu'il y avait, au lendemain de la guerre, dans un monde qui était dévasté par la guerre, où les gens étaient déboussolés, il y avait une grande soif, il y avait la soif de quelque chose, et que s'ouvrait une occasion sans précédent d'évangéliser le monde. Et c'est alors qu'il a eu véritablement cette vision de l'évangélisation de masse. Déjà dans les deux dernières années de la décennie, les années 40, 1948-1949, il avait organisé des grandes campagnes d'évangélisation, toujours dans le cadre de un peu de Jeunesse pour Christ finalement, aux États-Unis et au Canada. Par exemple, à Augusta, en octobre 1948, il avait organisé une grande campagne qui faisait pendant à la réunion du Conseil œcuménique mondial, dans laquelle il avait d'ailleurs été envoyé comme observateur pour le compte de Jeunesse pour Christ. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, le mouvement œcuménique naissant était essentiellement un mouvement missionnaire composé d'églises évangéliques. On aura l'occasion de revoir cela lorsqu'on parlera de l'œcuménisme au XXe siècle. L'œcuménisme est né en 1911 du souci d'un certain nombre de missions protestantes d'harmoniser leur violon sur le champ missionnaire. C'était rendu compte que la concurrence des différentes dénominations en Afrique et en Asie sur les champs missionnaires avait un effet déplorable sur le témoignage qui était rendu. Et alors, en 1911, à Édimbourg, les différentes sociétés missionnaires se sont rassemblées pour trouver un modus vivendi, délimiter des champs d'action pour que les différentes missions évitent de se marcher sur les pieds, de se concurrencer, voire même de s'entretuer, spirituellement s'entend bien sûr, et dans le but d'un plus grand témoignage. Donc, il a été décidé que périodiquement, cette assemblée mondiale des missions se rassemblerait pour faire le point et pour continuer cette harmonisation. Et c'est ainsi que, donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, 1948, une telle rencontre avait eu lieu à Amsterdam. Donc, Billy Graham avait participé à cette rencontre et là, il avait commencé à prendre conscience de ce qui viendra ensuite beaucoup plus fort en 1950, quand il comprendra que là, il y avait un appel pressant du Seigneur à remplir le vide que la guerre avait provoqué justement dans le cœur des gens. Mais Billy Graham, à cette époque-là, avait encore un problème personnel important. Dans les études qu'il avait faites, plus ensuite le temps qu'il avait passé dans cette université au Michigan, il avait été aux prises avec la théologie libérale. Donc, le doute sur la Bible. Et il s'était rendu compte que les universités, enfin les milieux universitaires chrétiens, et puis finalement au poste de commande des principales des églises, il y avait des gens qui étaient des libéraux. Et lui-même s'interrogeait, il avait des doutes personnels justement sur l'inspiration de la parole de Dieu, ce qui n'empêchait pas de prêcher l'évangile. Et ces mêmes années, donc, il a organisé en Californie une grande croisade sous une grande tente. C'était le début donc des réunions sous tente. Et là, l'affluence était telle qu'on avait manqué de place. Il faut dire qu'à cette époque-là, l'évangélisation de masse n'était pas très bien considérée par le public. D'abord parce qu'il y avait eu certains excès. Par exemple, Billy Sunday n'était pas apprécié partout à cause de quand même une culture assez frustre qui était la sienne. Bon, il y avait déjà quelques dérives dans le domaine de l'argent qui faisait que c'était considéré comme suspect, et la presse tirait à boulets rouges sur l'évangélisation de masse, caricaturait justement les évangélistes. Et c'est alors que Billy Graham a décidé de relever l'image de marque de l'évangélisation de masse. Et pour cela, il a pris des résolutions fermes d'intégrité absolue sur le plan financier et aussi sur le plan de la pureté conjugale, disons. Il a eu comme ligne de conduite absolue, parce qu'évidemment, il était souvent loin de sa femme, comme souvent les évangélistes, et souvent c'était un piège pour eux. Et si justement il y avait eu des aspects négatifs à cette époque-là, c'est parce que certains évangélistes, loin de leur femme, avaient eu des aventures extra-conjugales. Et il avait donc pris comme résolution de prendre le salaire du pasteur américain moyen. Et tout le reste, donc, entrer dans le fonctionnement de l'œuvre, quoi. Mais lui n'acceptait aucun don personnel, aucune rémunération autre que ce qu'était son salaire, le salaire, encore une fois, d'un pasteur américain moyen. Deuxièmement, il a décidé de ne jamais se trouver seul avec une femme qui n'était pas la sienne. Soit au restaurant, soit dans n'importe quelle situation où il pourrait être vu avec une femme qui n'était pas la sienne, de telle sorte qu'on ne puisse jamais l'accuser, comme ça avait été fait hélas pour d'autres, n'est-ce pas, de légèreté dans ce domaine-là. Et ça, ce sont deux points sur lesquels, effectivement, on peut rendre hommage à la probité absolue, l'intégrité absolue du Billy Graham. Il a décidé aussi de refuser absolument tous les appels d'argent émotionnels qui étaient déjà monnaie courante, pourrait-on dire, à cette époque-là. Et il a voulu absolument compter uniquement pour le financement de ses campagnes, qui souvent représentaient des sommes absolument phénoménales. Hein. Il comptait sur le travail de comités locaux qui s'organisaient sur place. Finalement, il disait, voilà, vous m'invitez, très bien, bien organisez un comité local de toutes les églises qui participent à la croisade, et à vous, justement, d'envisager le financement. Bon, ben, il y avait des collectes, évidemment, qui étaient faites à la sortie des réunions, mais qui étaient totalement libres. Et évidemment, l'équipe de Billy Graham, c'est-à-dire lui-même, ses collaborateurs comme Clive Barrow, Beverly Leche, ou tout ce qui était aussi l'assistance technique, se rembourser ses frais de déplacement, d'hôtel, de tout ce qu'on voudra, ça c'était normal. Et puis tout le reste, évidemment, aller au comité local. Troisième principe qui a été celui de Billy Graham, c'était de ne jamais mener son travail indépendamment des églises locales. C'est quelque chose qui avait aussi fait problème par rapport à l'évangélisation de masse, c'est que certains de ces évangélistes avaient tendance à créer de nouvelles dénominations ou des églises qui dépendaient d'eux, marchant parfois sur les plates-bandes des églises locales. Billy Graham, quand on l'invitait pour une campagne d'évangélisation, demander impérativement, il le fait toujours, c'est toujours son principe, que il reçoive une invitation officielle des églises de la région, de l'endroit qu'il invitait. Il ne venait jamais pour une église seule. Il s'est groupé d'autres, n'est-ce pas ? Bien entendu, il savait bien que tout le monde ne pourrait pas, ne voudrait pas se joindre à ce travail-là. Il ne faisait pas l'unanimité. Mais il essayait de faire en sorte que le plus grand nombre, n'est-ce pas, de gens soient impliqués dans ce genre de travail. Et la croisade était préparée minutieusement, avant des mois d'avance, par les rencontres justement des responsables des églises qui y participaient. Puis ensuite, Billy Graham demandait que de chaque église, un certain nombre de gens sûrs, de chrétiens sûrs, qui avaient l'expérience, etc., qui étaient solides, reçoivent une formation de ce qu'il appelait des conseillers. Le rôle des conseillers était le suivant. C'était, d'une part, lorsque les gens répondaient à l'appel qu'il faisait, il employait les moyens de par lequel lui-même s'était converti, c'est-à-dire à la fin de sa prédication, il faisait un appel à ceux qui voulaient donner leur vie au Seigneur de venir se présenter devant l'estrade. Et là, il y avait un certain nombre de conseillers originaires de toutes sortes d'églises qui abordaient ces gens-là pour ensuite les conseiller, disant bah, « Maintenant, vous voulez donner leur vie au Seigneur, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez ?» Et le principe était que les conseillers aiguille sur l'église dont ils étaient membres les personnes dont ils s'occupaient. De telle sorte qu'il n'y ait pas de jalousie d'une église à l'autre, n'est-ce pas ? En quelque sorte, les églises récoltaient les convertis, les nouveaux convertis, au prorata des conseillers qu'elles fournissaient, en fin de compte. Et les conseillers avaient aussi pour charge d'assurer le suivi, ensuite, de ces nouveaux convertis. La campagne terminée, ils étaient censés les visiter, les inviter aux réunions, veiller à leur croissance spirituelle jusqu'à ce que ces jeunes convertis soient véritablement intégrés dans les églises locales. Et Billy Graham ne voulait pas, il dit « Moi, je suis un évangéliste, je ne suis pas un fondateur d'église, je suis là pour que les gens se convertissent et après qu'ils trouvent leur lieu d'insertion dans les églises locales. » Bon, alors évidemment, le suivi était variable selon le zèle de ces fameux conseillers, puis aussi l'état spirituel des églises. Plus une église était évangélique, plus une église était bouillante, et plus il y avait de chances que les gens qui avaient pris des décisions s'intègrent vraiment dans l'église. Des églises beaucoup plus traditionnelles, historiques ou autres, avaient un pourcentage assez réduit de gens qui s'intégraient et qui s'attachaient véritablement à l'église. Et c'est dans ces années-là donc que Billy Graham a compris que son ministère d'évangélisation de masse était le développement logique de son engagement dans Jeunesse pour Christ. Dans ces années-là, donc en 1950, Billy Graham a été amené à évangéliser, il a été invité dans des endroits, dans des universités, des choses comme ça. Et là, bien, il a connu de véritables échecs. Fiasco total. Et là, il s'est interrogé. Il y a eu un certain découragement. Était-il véritablement appelé à l'évangélisation? N'aurait-il pas mieux fait de retourner à l'éducation? Il a pensé donc rebifurquer sur l'université qu'il avait abandonnée. Et il a donc décidé de prendre un congé pour préparer un doctorat, dans le but justement de devenir enseignant dans un collège biblique ou dans une école biblique quelconque. Et c'est là donc qu'il s'est à nouveau trouvé confronté avec ses doutes quant à l'inspiration de l'écriture et les problèmes qui touchaient à la théologie libérale qui était pratiquement la norme, y compris dans les églises, dans les instituts bibliques baptistes de cette époque-là. Il a d'ailleurs eu un mauvais conseiller en la personne d'un ami proche qui lui a dit que la foi dans l'inspiration verbale de la Bible était quelque chose de trop simple et quelque chose de totalement démodé. Et c'est alors qu'un soir, vraiment tiraillé, écartelé par le doute, il s'est placé à genoux dans sa chambre et dit « Seigneur, parle-moi, montre-moi ». Et là, donc, il a pris la fameuse décision qui devait transformer tout son ministère. Il a dit au Seigneur, je vais accepter la Bible comme ta parole, par la foi, par une foi totale, une foi d'enfant, même si je ne la comprends pas toujours, même s'il y a quelquefois des choses qui me heurtent, qui me choquent, je crois que ta parole est la vérité. Je le ferai par la foi. Et alors, là, il a senti la présence de Dieu, l'approbation de Dieu sur cet engagement qu'il venait de faire. Et il a donc compris que son orientation dans le monde universitaire était une fausse piste, quoi. Que le Seigneur l'appelait vraiment. Lui demander, au contraire, de faire ce qui avait toujours eu du succès chaque fois qu'il l'avait fait, c'est-à-dire justement prêcher l'Évangile dans sa simplicité. Et c'est donc à partir de 1950 qu'il a repris à fond l'évangélisation de masse sur les principes que nous avons énoncés il y a un instant. La première de ces conférences, de ces conventions, a eu lieu à Los Angeles, et là donc il a préparé soigneusement son affaire. D'abord par des articles dans les journaux, des conférences de presse, et rien qu'à Los Angeles, pour cette fameuse campagne, il y avait 200 églises qui avaient été associées. Bon, vous allez me dire 200 églises, ça se trouve pas n'importe où comme ça. Bon, là, on est aux États-Unis, hein, bien sûr. Et là donc, il a tenu une campagne d'évangélisation à Los Angeles qui a duré 3 semaines. Une campagne d'évangélisation qui a bouleversé la ville tout entière et qui a eu des retentissements jusque dans Hollywood. Puisque là, Hollywood, c'est une banlieue de Los Angeles, comme vous le savez. Mais finalement, le bilan une fois fait, le nombre de convertis n'était pas à la mesure des espérances qu'il avait eues. Et finalement, les organisateurs ont décidé de prolonger la campagne, disant que bon, si on arrêtait maintenant... ça risquait finalement d'être un peu un coup d'épée dans l'eau. Et à ce moment-là, justement, quand ils ont décidé de prolonger la campagne, soudain, c'est pareil, il y a eu comme un déclic. Et là, ça a été une véritable marée humaine. D'abord, la presse a commencé à véritablement s'intéresser à ce qui se passait. Et ça a été une véritable marée humaine. Alors que dans les 3 premières semaines, ça patinait. Soudain, là, ça a été des foules et des foules qui se sont pressées. Les gens se levaient, n'est-ce pas, sous la conviction de péché importante, n'est-ce pas. Ça a été cette campagne qui a été le tournant du ministère de Billy Graham. La presse l'a comparé à Billy Sunday, justement, en disant que c'était le plus grand réveil de toute l'histoire de la Californie, cette fameuse campagne de 1950. Un gangster s'est converti. Il est venu témoigner de ce qu'il était. Il s'est révélé comme un chef de bande d'un des grands gangsters qui s'appelait Billy Cohen, qui était très connu justement dans la ville de Los Angeles. La presse a été profondément impressionnée par la conversion de ce gangster, a consacré des colonnes entières à son témoignage, et le nombre des convertis a été tel que dans la plupart de ces 200 églises qui avaient participé à la campagne, il a fallu, les locaux de culte sont devenus trop petits pour accueillir tous les convertis qui s'étaient donnés au Seigneur pendant cette période-là. Le monde du spectacle de Hollywood a été aussi profondément impressionné, et c'est ainsi que une actrice de cinéma est venue un jour participer à une des soirées de Billy Graham, et à la fin lui a dit: écoutez, qu'est-ce qui se passe? Il dit: comment vous arrivez là? Vous nous battez, quoi. Nous, on connaît toutes les ficelles pour impressionner les gens, on connaît toutes les ficelles du divertissement, et vous, vous arrivez sans cette formation d'acteur qui est la nôtre, vous arrivez à faire plus que nous, quoi. Et alors elle a dit: je vous ai bien observé pendant toute cette soirée. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que vous n'utilisez aucune des ficelles du métier. Aucune des ficelles que nous employons. Comment vous faites? Alors Billy Graham lui a dit: c'est le Saint-Esprit, etc. Bon, enfin, c'est pas converti, mais enfin, elle a été profondément impressionnée. La nuit aussi, les réunions duraient pratiquement toute la nuit, parce que les réunions terminées, il y avait des gens qui étaient angoissés, qui venaient chercher la paix, et il y avait toujours une présence dans la tente, n'est-ce pas, avec des conseillers qui se relayaient pour accueillir tous ceux qui, justement, certains n'osaient pas venir le jour, un peu comme Nicodème, si vous voulez, et là, venez, comment est-ce que je peux avoir la paix, etc., etc. Parmi les convertis de cette campagne mémorable, il y a eu un champion d'athlétisme, et il a fallu prolonger les réunions pendant un mois. Et à la dernière réunion, il y avait 110 000 personnes qui assistaient à la seule réunion. Ouais. Pendant ces plusieurs semaines, donc ça faisait à peu près 7 semaines de réunion, des centaines de milliers de personnes avaient eu l'occasion d'entendre l'Évangile. Billy Graham a entrepris une deuxième campagne du même style en décembre de la même année à Boston, et c'est là qu'il a eu donc une parole qui aujourd'hui paraît un peu dépassée, ce qui montre qu'il faut être prudent, n'est-ce pas. Il avait prêché sur la fin du monde, le retour de Jésus, etc., et son slogan était: je doute que l'humanité puisse voir l'an 2000. Bon, voilà, enfin bon, ça portait. Et dès le 16 janvier, le lieu de réunion était plein. C'était un auditoire sans précédent. Et il a fallu aussi prolonger la campagne de 17 jours au-delà de ce qui était prévu. Évidemment, prolonger comme ça, ça impliquait des frais considérables supplémentaires, imprévus au budget de la campagne. Mais chaque fois qu'il a fallu prolonger, eh bien, le Seigneur a toujours pourvu pour les frais. Et Billy Graham pouvait dire qu'il faut souvent persévérer dans ce domaine-là. Les premiers temps sont assez ingrats, et là, justement, les expériences qu'il avait faites lui ont montré que c'est souvent quand on a envie de lâcher prise que les choses, le déclic se fait. À cette fameuse campagne de Boston, Billy Graham aussi bénéficiait de l'appui de l'Église catholique locale, ce qui était une première dans le domaine. Dans ce même hiver 1950, il a donc évangélisé aussi un certain nombre, 15 villes de la Nouvelle-Angleterre, et il a commencé à être connu dans tout le pays. Il a été reçu par le gouverneur de l'État lui-même, ainsi que toute son équipe, et invité pour prêcher dans de nombreuses universités aux étudiants. Et fort de ses échecs précédents dans ce domaine-là, il a appris à parler aux étudiants un autre langage, non pas essayer de se mettre à leur niveau au point de vue intellectualisme, mais se rendant compte que c'était des hommes comme les autres qui avaient besoin de Jésus-Christ, eh bien, il leur a parlé directement, simplement, comme il le faisait finalement à d'autres, bien entendu, en l'adaptant un peu. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas à justifier l'Évangile dans ces milieux intellectualistes, ni à se justifier lui-même, mais simplement à prêcher l'Évangile. Bon, à Boston, donc, il avait rassemblé à peu près 50 000 personnes par semaine. Là, il avait compris aussi une autre réalité, c'est que notre époque moderne ramène, disait-il, Dieu au niveau de l'homme et cherche à déifier l'homme. Et dans l'Amérique de ce demi-siècle, il y avait une grande recherche spirituelle, une grande soif spirituelle. Et c'est ainsi qu'en juillet 1950, il a entrepris une autre croisade à Portland, en Oregon, donc sur la côte ouest des États-Unis, où 50 000 personnes ont assisté à la campagne, une campagne qui a duré 3 semaines. C'est à cette époque-là que Billy Graham a commencé à s'intéresser au film, à l'évangélisation par le film. Et notamment, il a rencontré le célèbre producteur de cinéma, Cecil B. DeMille, vous savez, le producteur de Ben-Hur et d'autres films à grand spectacle de cette envergure-là. Bon, on lui avait aussi proposé à ce moment-là de s'engager dans la radio, mais bon, ce qui le faisait refuser, c'était les coûts financiers de l'affaire. Ce qui le faisait hésiter, c'était le coût financier de l'affaire. Et il a demandé, Seigneur, donne-moi un signe si c'est ta volonté. Et de fait, dans les jours qui ont suivi, le Seigneur a envoyé à peu près 24 000 dollars, ce qui était largement confortable pour couvrir les frais pendant plusieurs mois. Et c'est ainsi que une radio chrétienne a été créée pour diffuser justement les émissions de Billy Graham. Et cette occasion-là, Billy Graham a complètement pris son indépendance par rapport à Jeunesse pour Christ, dont il restait théoriquement l'évangéliste, si j'ose dire, bien que déjà il avait pratiquement... Et là, il a créé donc une organisation évangélique qui s'est appelée Billy Graham Evangelistic Association, ce qui existe encore aujourd'hui, Association d'évangélisation Billy Graham. Le but de cette association dans les statuts était la propagation de l'évangile par tous les moyens possibles. Donc c'était très clair en ce qui concernait les buts. Le 5 novembre 1950, il a organisé une croisade à Atlanta, dans le sud des États-Unis, et il a créé donc, il a donné à cette émission de radio le nom de l'heure de la décision. Et là, c'était une émission où il prêchait et où il appelait donc les gens à une décision immédiate. Est intéressant de noter que à cette époque-là, il attaquait beaucoup la mondanité dans l'Église et il a été, à ce moment-là, on l'a invité à entrer en politique. Un certain nombre de gens se sont rendus compte qu'il ferait aussi un homme politique excellent. Mais Billy Graham, évidemment, a compris que c'était pas le plan de Dieu pour lui. Et il a donc refusé. Mais par contre, a commencé à cette période-là, un aspect dont il faut bien dire, bien que c'est un grand homme de Dieu, mais enfin, il a ses failles comme tout le monde. Billy Graham a commencé à fréquenter de très près les hautes personnalités du monde politique américain, et pas seulement américain d'ailleurs, d'une manière générale. Par exemple, en 1951, il a rencontré à Paris le général, chef d'état-major général des forces armées de l'OTAN, ça s'appelait pas l'OTAN à l'époque, ça s'appelait le SHEP, je crois. Bon, je sais plus quel était, c'était un sigle. Le quartier général était à Versailles, et ce général en chef se nommait Dwight Eisenhower, qui était l'ancien chef des armées alliées au moment du débarquement et puis de l'assaut en Europe. Et Ike, comme on l'appelait à cette époque-là, était candidat au poste de président des États-Unis pour le compte du Parti républicain. Et Ike, qu'il a reçu donc dans son quartier général de Versailles, lui a demandé de faire campagne pour lui. Et Billy Graham a accepté de faire campagne pour Dwight Eisenhower. Bon, c'est un aspect un peu curieux. Et de fait, sous prétexte que Dwight Eisenhower avait une certaine dimension spirituelle, ses parents appartenaient aux frères de Plymouth, etc. Et finalement, Eisenhower et pratiquement tous les présidents américains par la suite ont essayé d'utiliser Billy Graham à des fins de propagande. Il s'est parfois laissé manipuler dans ce domaine-là. Le pire piège dans lequel il est tombé est avec Clinton, qui au début de son mandat, il avait présenté aux Américains Clinton comme un homme de Dieu, parce qu'il était baptiste en plus, Clinton, n'est-ce pas? Et puis après, on sait ce que Clinton est devenu. Et Billy Graham a dû faire amende honorable publiquement, parce qu'il est quand même honnête, et bon, il a dit qu'il s'était trompé, etc. Il a dit publiquement qu'il s'était trompé, mais enfin, c'est bête, quoi. Hein. Bon, il a quand même, avant de s'engager auprès d'Eisenhower, il lui a demandé quel était son engagement chrétien véritable. Il était prêt à faire campagne pour lui, mais à condition que quand même, qui est du répondant. Et bon, Hayek a reconnu que c'était beaucoup éloigné de l'Église et beaucoup éloigné de l'Évangile. Parce qu'il avait été déçu, disait-il, par certains prédicateurs, etc. Bon, enfin bref, toujours est-il qu'il a promis de s'engager davantage. Bien entendu, qu'est-ce qu'on ne promettrait pas quand on est candidat au, au poste de président des États-Unis. Bien, donc il a été élu en 1952. Et puis, donc, il a utilisé Billy Graham, faut bien dire, pour un certain nombre de choses. Par exemple, en 1952, c'était en pleine guerre de Corée. Les États-Unis étaient engagés dans ce conflit sanglant en Asie du Sud-Est. Et Eisenhower a demandé à Billy Graham s'il était prêt à aller donc pour passer Noël avec les soldats dans les tranchées là-bas, en Corée, etc. Bon, c'était un moyen d'évangélisation et Billy Graham s'y est prêté volontiers, bien sûr. Il avait là une occasion qu'il a vue aussi comme étant une occasion de Dieu. Il y avait une arrière-pensée, bien entendu, là derrière, quoi. C'était le but de remonter un peu le moral des troupes qui commençaient à baisser singulièrement. Eisenhower l'a envoyé au Japon, où il a rencontré le chef des forces alliées en Corée, qui avait son quartier général au Japon, qui était le général MacArthur. Et là, il a obtenu de MacArthur l'autorisation d'envoyer un certain nombre de missionnaires en Asie et puis des Bibles. Bon, c'était bien, mais enfin... Eisenhower lui a dit, ce qui a beaucoup encouragé Billy Graham, « Notre pays a besoin d'un réveil » et il a publié une journée de prière nationale. Bon, finalement, Hayek a accepté de devenir membre d'une église presbytérienne et en septembre 1957, il y a eu des émeutes raciales très importantes aux États-Unis, dans la ville de Little Rock, dans le sud des États-Unis, où des Noirs ont été chassés de l'université parce qu'ils étaient Noirs. Ça a provoqué donc des troubles très importants dans le sud. Eisenhower lui a envoyé la troupe et il a aussi envoyé Billy Graham pour calmer un peu les choses et essayer de ramener à la raison les uns comme les autres. Donc Billy Graham a servi d'intermédiaire, de médiateur. C'est la première fois qu'il avait ce rôle-là. Ce sera pas la dernière. Finalement, beaucoup de présidents des États-Unis l'utiliseront dans des choses comme ça pour régler ce différend. Bon, il a dû aussi régler un différend entre Eisenhower et son vice-président Nixon, qui était aussi un grand chrétien selon Billy Graham, dont on sait qu'il en a été par la suite. Finalement, Hayek est tombé gravement malade. Problèmes cardiaques qui ont fini par l'emporter. Et d'après Billy Graham, sur son lit de mort, il s'est véritablement converti. Bon, mieux vaut tard que jamais. En février 1952 aussi, il avait tenu sa première grande campagne à l'étranger à Londres. Enfin, il avait plus exactement organisé une... il était sans doute à Londres pour organiser une croisade qui devait avoir lieu en 1954. Et là, les églises anglaises avaient organisé une grande campagne de publicité sur le thème « Venez écouter Billy Graham ». À cette occasion-là, il avait eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre de l'époque anglais, Winston Churchill. Winston Churchill, qui aussi était un homme qui avait une certaine dimension spirituelle, et qui lui avait dit ceci, il avait eu un entretien privé avec lui, au 10 de la rue Darwin Street, qui est la résidence du Premier ministre anglais, et il avait dit, Churchill avait dit ceci à peu près, il avait dit, le monde va à la catastrophe, et je ne vois vraiment pas ce qui pourrait arrêter la course à l'abîme. Alors Billy Graham lui avait dit oui, c'est ce que la Bible annonce, enfin il avait pris les textes, etc. Et là, Churchill s'était vraiment inquiété pour lui-même, pour son âme, il dit, mais alors... Et Billy Graham l'avait vraiment exhorté de mettre sa vie en règle avec Dieu et se convertir, se tourner vers Jésus-Christ. Et il avait bien vu que Churchill était vraiment remué très profondément. Et quand Churchill l'avait reconduit donc sur le pas de la porte, il avait dit, bien sûr, monsieur le pasteur, cette conversation restera strictement entre nous. Hein. Alors Billy Graham lui a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et donc ce n'est que très longtemps après la mort de Churchill qu'il a donc révélé cette conversation qu'il a eue avec cet homme-là. Donc, au début de 1954, il fallait des fonds pour cette grande campagne de Londres et on en manquait. C'était une époque où quand même la Grande-Bretagne était encore très affaiblie par la guerre. Elle avait subi l'essentiel du fardeau de la Deuxième Guerre mondiale. Et 1000 églises ont été associées à cette grande campagne de 1954, dont les deux tiers étaient des églises anglicanes. C'était l'époque où, en Angleterre, le taux de fréquentation des églises était tombé très 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 bas, le plus bas depuis de très nombreuses décennies. Et même au Parlement britannique, un député anglais avait voulu lui interdire de tenir cette campagne. Il avait eu une campagne de presse contre lui, suite d'ailleurs à un certain nombre de maladresses de ses collaborateurs, et à cause de cela, un certain nombre d'églises l'avaient abandonné dans cette campagne-là. Et c'est par la foi, en quelque sorte, dans un contexte très houleux, qu'en 1954, Billy Graham donc, est arrivé à Londres pour tenir une campagne dont il ne savait pas très bien comment elle allait tourner. Et ça, si vous voulez, on verra ça la prochaine fois. On reste sur ce suspense. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser ?